Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Avec ce matin l'égalité au cœur de notre entretien, cette égalité, principe fondateur de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. L'égalité, c'est donc le thème de votre dernier livre intitulé « Une brève histoire de l'égalité » paru aux éditions du Seuil. L'égalité sociale, l'égalité économique, l'égalité, on va la décliner cette égalité. Un livre en format poche hein, pour une fois, c'est peut-être pour ceux qui n'ont pas eu le temps de lire vos précédents travaux, volumineux travaux autour du capital. D'ailleurs, en fait, à qui s'adresse ce livre ?
À tout le monde. À vrai dire, les précédents sont aussi très lisibles, hein, vous savez.
Mais ils font 1000 pages.
Un peu longs.
Ils font 1200 pages à chaque
fois. Et c'est vrai qu'il y a tellement de lectrices, de lecteurs que j'ai rencontrés au fil des années qui m'ont dit, bon, c'est sympa ce que vous écrivez, mais vous savez, quand même, moi, j'aimerais pouvoir le partager avec mes amis, ma famille, et c'est quand même, c'est un peu exigeant en temps. Et c'est vrai que ça, j'ai fait 3 livres de chacun 1000 pages depuis 20 ans autour de l'histoire
des
inégalités entre classes sociales, les hauts revenus en France au XXe siècle en 2001, le capital au XXe siècle en 2013, capital et idéologie en 2019. Et ça fait une masse d'informations qui n'est pas à taille humaine, disons, sauf si on a vraiment que ça à faire. Donc là, j'ai voulu faire un livre qui est beaucoup plus bref. Hein, c'est un format de poche, ça se lit vraiment en quelques heures. Et en même temps, qui reprenne l'essentiel. Et puis, il y a des réflexions nouvelles aussi, parce qu'au fil du temps, des débats que j'ai pu avoir, moi, j'évolue tout le temps.
Justement.
Je suis pas figé, parce que simplement, la recherche continue, et puis surtout, les discussions continuent.
Alors, un format poche, ça, c'est pour la forme. Mais dans le fond, est-ce qu'à 8 mois de la présidentielle, ce livre de justice sociale a vocation à inspirer une gauche qui aurait oublié de travailler sur ces questions de redistribution.
Oui, la gauche et la droite, enfin c'est un livre pour tout le monde, pour tous ceux qui s'intéressent d'abord à l'histoire, parce que c'est d'abord un livre d'histoire. C'est-à-dire, la nouveauté, c'est qu'on a, avec plusieurs centaines de chercheurs de par le monde, au cours des 30 dernières années, collecté des données historiques, des informations historiques sur les écarts de richesse dans les différentes sociétés depuis le XVIIIe siècle, qui permettent aujourd'hui d'aborder ces questions d'une façon, non pas parfaitement scientifique, parce qu'il y a toujours plein de choses qu'on connaîtra pas, on est obligé de faire des interprétations, mais quand même avec beaucoup plus d'éléments que que ce qu'on avait avant. C'est-à-dire que ces questions d'inégalité intéressent tout le monde depuis toujours. Hein. Vous prenez Jean-Jacques Rousseau, la concentration de la propriété, Karl Marx, Platon disait il faut pas que les écarts dépassent 1 à 4 dans une société juste. Mais on avait peu d'informations. C'est-à-dire Là, la nouveauté, c'est qu'on a énormément d'éléments historiques sur comment les écarts ont évolué jusqu'au XVIIIe siècle pour la France, jusqu'au XIXe siècle pour un certain nombre de pays. Et on peut essayer de tirer des leçons. Et c'est vrai qu'il y a ce constat optimiste, finalement, dans le long terme, parce que c'est aussi un livre optimiste.
Oui, c'est un livre optimiste. Hein.
Qu'il y a, dans le long terme, une marche vers l'égalité, alors qui n'est pas du tout linéaire, qu'il y a plein de retours en arrière, mais qui, quand même, existe. Et donc, moi, c'est ce message optimiste que je veux aussi, sur lequel je veux insister dans cet ouvrage.
Alors, c'est un message que vous adressez surtout, il me semble, aux citoyens dans votre livre. Vous voulez, écrivez-vous, des citoyens actifs. Vous attendez, je vous cite encore, des mouvements, des organisations collectif pour, dites-vous, transformer les rapports de force. Vous appelez à quoi, Thomas Piketty ? Est-ce que vous appelez au sursaut populaire ?
Je constate que dans l'histoire, je parle de l'histoire, ce sont effectivement les luttes sociales, les mobilisations politiques qui ont conduit vers plus d'égalité. Alors ça commence notamment avec la Révolution française, mais aussi au niveau international, avec la révolte des esclaves de Saint-Domingue en 1791. Et ces deux événements, qui sont évidemment très liés, marquent un peu le début de la fin, à la fois des sociétés de privilèges et des sociétés esclavagistes et coloniales. Mais le combat, après, a été ponctué par de multiples autres mouvements politiques, élections parfois, mais aussi révoltes sociales, luttes sociales, qui ont transformé la société. Parce que l'égalité de la Révolution française, vous y faisiez référence tout à l'heure, c'est surtout une égalité entre les hommes, plutôt les hommes blancs et les hommes blancs propriétaires.
Et
si vous êtes si vous remplissez pas tous ces critères, l'égalité, elle a pas tout à fait la même saveur. Vous savez, pour les femmes, on attend jusqu'aux années 60-70 pour que les femmes mariées aient les mêmes droits que les hommes pour simplement ouvrir un compte en banque, signer un contrat de travail.
Donc
l'égalité, c'est un combat, voilà, qui continue sans cesse, mais dans le long terme, on avance dans cette direction.
Mais en fait, quand je dis vous adressez directement aux citoyens, on a l'impression que vous squeezez, le mot est pas très beau, le politique, le personnel politique. On est à 7 mois d'une élection présidentielle, Éric Delvaux le rappelait. Est-ce qu'il y a un candidat, cette fois, que vous observez avec de l'intérêt ? La dernière fois, vous avez suivi très près, vous aviez été aux côtés de Benoît Hamon. Est-ce que cette fois-ci encore, vous portez de l'attention à un candidat en particulier d'ores et déjà ?
La dernière fois, oui, Benoît Hamon, c'était en mars-avril que les choses, enfin que moi je me suis engagé. C'est-à-dire je m'engage au moment des élections parce que je trouve que c'est trop facile pour un chercheur, un intellectuel, de rester simplement dans son bureau en disant tous les candidats sont nuls. Je veux pas m'engager.
Vous le referez cette année ou pas?
Je verrai comme tout le monde, vous savez, comme tous les citoyens. Après, moi, j'ai la chance, on me demande mon avis, donc je donnerai mon avis. Mais simplement, la politique, ça s'arrête pas aux élections. Je veux dire que il y a un mouvement des idées dans le long terme. Moi, je crois dans le combat des idées, dans l'évolution. Je pense que les livres sont important. Voilà. Et même s'ils n'ont pas un impact électoral immédiat, dans le long terme, je pense que c'est très important. Alors on verra ce qui se passe en 2022. Mais moi, je veux aussi que ces débats sur l'égalité et l'inégalité, on les remette dans cette perspective sociale, politique et cette perspective de long terme.
L'actualité,
j'insiste vraiment sur le fait que les luttes sociales, vous savez, l'histoire, la Révolution française n'est pas terminée. Les luttes sociales ne sont pas terminées. Quand vous avez un mouvement comme les Gilets jaunes, on a immédiatement le cours politique qui s'en trouve totalement bouleversé. C'est-à-dire que les décisions budgétaires qui ont été prises, n'étaient absolument pas prévues au départ, ont été imposées en quelques semaines. Alors, il y avait peut-être, on peut se plaindre qu'il n'y avait pas suffisamment de débouchés constructifs qui sortaient de ce mouvement. C'est bien pour ça qu'on a aussi besoin d'idées, de réflexions sur les institutions qu'on voudrait mettre en place et pas simplement celles qu'on voudrait refuser.
Vous parlez des Gilets jaunes, c'était la révolte des inégalités devenue aujourd'hui une révolte contre le pass sanitaire. Les deux aspirations se rejoignent un peu au nom d'une liberté, disent les opposants au pass sanitaire. Contre quelle forme d'inégalité serait le pass sanitaire ?
Alors, faut pas non plus confondre tous les mouvements quand même. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ça partait de cette augmentation de taxe carbone, qui était à mon sens très très injuste parce qu'elle frappait surtout les classes populaires, les classes moyennes. On utilisait les recettes fiscales non pas pour investir dans la transition énergétique, mais pour financer la suppression de l'impôt sur la fortune. Donc il y avait un sentiment d'injustice fiscale qui est souvent d'ailleurs à l'origine des révoltes sociales depuis des siècles et des siècles. Donc là, on est clairement dans une configuration très différente. Je pense que ça nous interpelle tous, ce manque de confiance qu'on trouve chez quand même un grand nombre de personnes vis-à-vis des autorités sanitaires. Moi, je crois au vaccin, je suis vacciné, je crois au vaccin, je pense que c'est vraiment la bonne façon de faire compte tenu des études dont on dispose. Mais en même temps, je veux insister sur le fait que ça nous interpelle tous, cette défiance, quand on a une telle défiance, à la Réunion, en Martinique, en Guadeloupe, c'est quand même très inquiétant, mais en France métropolitaine également, on a visiblement des institutions qui n'inspirent pas complètement confiance. Je pense que les profits des labos pharmaceutiques, par exemple, si on avait mieux réguler cette question, si on avait levé, comme on aurait dû le faire, je pense, les droits sur les vaccins de manière à ce que les pays du Sud, les plus pauvres de la planète, puissent avoir accès à ce vaccin, je pense qu'on aurait pu contrer un certain nombre de suspicions sur le fait que tout ça était fait pour alimenter des profits. Cela dit, même si on avait tout bien fait, il y aurait aussi des personnes contre. Donc tout ça est compliqué. Et moi, je sais pas, j'ai pas de solution. Tout ça m'interpelle beaucoup. Alors, je constate cette défiance et je trouve que tous, on peut pas simplement rejeter ça en disant voilà l'irrationalité. Il faut ça interroge sur comment on construit la confiance dans une société.
Alors Pierre Rosanvallon essaye d'en faire une lecture. Pierre Rosanvallon, qui était l'invité de France Inter du grand entretien de la matinale vendredi, il parle d'une autre manière des inégalités, il parle des épreuves de la vie. Ces épreuves qui vous attiennent personnellement, qui vous diminuent, qui vous déstabilisent. Est-ce que c'est une bonne manière de lire la société aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous en pensez de cet ouvrage, Les épreuves de la vie ?
Est-ce que c'est ça ou pas ? Je pense que ça a toujours été important. C'est-à-dire, je pense que ce serait une erreur de penser, voilà, avant il y avait les classes sociales, aujourd'hui il y a les épreuves de la vie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a toujours eu, les deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours un ressenti fortement subjectif, individuel, des épreuves, des difficultés qu'on a
à obtenir le respect. Donc ça n'apporte pas grand-chose.
Je ne suis pas en train de dire ça. Non, je pense qu'on a besoin d'avoir cette
grille
double perspective, cette grille de lecture. Mais après, je pense que ce qui est très important aussi pour nous tous, c'est de réfléchir au-delà du ressenti et de toutes les colères, frustrations qui peuvent s'exprimer, de réfléchir à la question du débouché. C'est-à-dire, moi, j'insiste beaucoup dans cette histoire de l'égalité sur le fait que ce mouvement historique vers l'égalité, il se nourrit à la fois des colères, des rapports de force, mais aussi de la transformation positive des institutions. C'est-à-dire que ce sont vraiment les règles légales, sociales, éducatives, fiscales, électorales. C'est-à-dire c'est tout cet ensemble d'institutions
qu'il faut
sans cesse revoir. C'est-à-dire que je prends un exemple, l'égalité électorale, un homme une voix, une femme une voix. Bon, ça a mis du temps à s'installer, ça s'est plus ou moins installé. Sauf que tout ce qui concerne le financement des campagnes politiques, le financement des médias, le financement des think tanks reste non seulement extraordinairement inégalitaire, mais même parfois, vous savez, les plus riches qui vont donner 7500 euros par an à un parti politique vont bénéficier de 5000 euros de réduction d'impôts payés par le reste des contribuables, alors que le financement public, qui lui dépend des scores électoraux obtenus aux dernières législatives, ça va être 1 ou 2 euros par citoyen. Donc on est dans un système légal où le citoyen très riche qui peut donner une année de SMIC ou presque, qui va faire plusieurs fois 7500 euros, va recevoir du reste des contribuables 5000 euros pour de facto subventionner ses préférences politiques. Et le citoyen lambda, lui, il a 1 ou 2 euros. Donc, c'est pas exactement le système censitaire, c'est une autre forme.
L'égalité, c'est aussi protéger notre système
électoral. On pourrait imaginer que dans une démocratie...
Pardon ? Est-ce qu'il est menacé, ce système électoral ?
Oui, je pense que... Je veux vraiment être désagréable avec personne, mais quand vous avez un candidat en 2017 qui obtient plus de dons de financement à Londres que dans toutes les grandes villes de province réunies, qui est aujourd'hui président de la République, aller dire que ça n'a aucun effet sur les politiques suivies, sur le type de priorité qu'on a en tête, je trouve que ce serait quand même d'une naïveté confondante. Je dis pas que tout est déterminé par ça, mais aller faire comme si ça n'avait aucune espèce d'importance quand vous avez toute une partie des médias qui est possédée par un petit groupe de milliardaires qui prend quand même des décisions très concrètes, on le voit à Europe 1 cette rentrée, sur qui, quel type de ligne, etc. On pourrait imaginer qu'une démocratie mature, non seulement inscrivent dans la Constitution le principe d'un homme une voix, une femme une voix, mais aussi inscrivent dans la Constitution le principe de un électeur un euro pour financer les partis politiques et pas le droit de financer davantage, d'avoir un... la question de la liberté de la presse. Elle a accompagné la montée en puissance de la démocratie parlementaire, de l'État social, la redistribution, c'est un élément central. Mais là encore, on peut pas faire comme si une situation où vous avez la moitié des médias possédé par 5 milliardaires, que soit quand même le stade le plus abouti, que ce soit ce qu'on peut mieux faire de mieux en matière de liberté de la presse. Donc tous ces combats, ils ont obtenu des réussites considérables. Hein, je parlais des droits des femmes tout à l'heure, la sortie du colonialisme.
En fait, il y a toujours de nouvelles égalités à conquérir.
Il y a toujours des nouvelles égalités à conquérir.
Féministes, écologistes ou métissées.
Mais même sur les questions, voilà, les plus basiques, on n'a pas beaucoup avancé. Et alors sur les questions de discrimination, puisque vous faisiez référence à ça, je crois que là c'est vraiment un des sujets sur lesquels aujourd'hui on a d'un côté une obsession identitaire qui monte en puissance. Et malheureusement pour cette élection de 2022, vous en parliez tout à l'heure, ça risque de jouer un certain rôle. Mais en vérité, on parle très peu de la question des discriminations et de qu'est-ce qu'on va faire enfin pour les discriminations. C'est-à-dire qu'on n'a pas, en France par exemple, on n'a pas de suivi annuel de comment ont évolué les discriminations. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des études ponctuelles qui montrent que par exemple quand vous envoyez des CV avec des noms d'origine arabo-musulmane, vous avez 4 fois moins d'entretiens d'embauche pour les garçons, 3 fois moins pour les filles, y compris pour un même diplôme. C'est-à-dire que il y a des études qui ont été faites très détaillées, par exemple sur des emplois de comptable, vous avez fait la même formation, le même diplôme, les mêmes stages, vous avez tout. Donc ça, on a des vous avez la chance qui vous est donnée d'avoir un entretien d'embauche qui diminue drastiquement. Donc il y a eu des études ponctuelles qui ont été faites, mais quand est-ce qu'on aura un suivi annuel par secteur permettant de façon officielle, qu'il y ait une parole officielle qui dise voilà comment les choses ont évolué? Par exemple, depuis 2017, est-ce que ça s'est amélioré, est-ce que c'est aggravé? Personne ne le sait.
Non,
parce que
des salaires des femmes, il y a un suivi tout de même.
Alors, hommes-femmes, vous avez raison, il y a eu pour le coup certains progrès, mais vous savez, ça a été une bataille considérable. C'est-à-dire que quand des quotas ont été introduits pour les femmes dans les élections, la parité hommes-femmes, il a fallu changer la Constitution. C'est-à-dire le Conseil constitutionnel, la gauche avait voulu faire ça en 81, le Conseil constitutionnel en 82 avait censuré. Après, il a fallu attendre 2008, modification de la 1999, puis 2008 pour une seconde modification de la Constitution. Donc tous ces combats, voilà, le point commun, c'est que ce sont des combats.
Thomas Piketty, votre livre est très riche. Alors on va faire des réponses peut-être plus courtes parce que sinon on n'aura pas le temps d'étudier chaque chapitre. À propos des discriminations, une autre forme de discrimination, peut-être, vous diront certains, et c'est l'une de vos marottes d'aller taxer les plus riches, pourquoi pas jusqu'à 90%, comme vous le préconisiez dans un livre précédent, au nom de cette égalité. D'autres vous diront que c'est un affront à la liberté et même une sorte de discrimination aussi envers cette partie de la société.
Alors, sur la question des milliardaires ou des très très hauts revenus, moi, à nouveau, j'essaye de partir de l'histoire. C'est-à-dire, comment on fait pour savoir quel est le bon niveau d'inégalité entre les pauvres, les classes moyennes, les milliardaires dans une société? Comment on fait pour savoir où il faut s'arrêter dans l'impôt sur les plus riches, puisque c'est ça que vous mentionnez? Moi, j'ai pas de réponse miracle à cette question, et ma seule méthode, comme toujours, c'est d'essayer de développer une méthode historique. C'est-à-dire, j'essaye de comparer, tout simplement, ce qui a été fait dans différentes sociétés dans le passé, quels ont été les effets. Je dis pas que cette méthode aboutit à tous les coups, mais il faut bien partir de là. Et en l'occurrence, pour répondre très, très précisément à votre question, de très nombreux pays au cours du XXe siècle, par exemple les États-Unis de 1930 à 1980, ont eu en moyenne aux États-Unis le taux fédéral d'imposition appliqué aux revenus les plus élevés était en moyenne de 81%. Il y avait les impôts des États qui s'ajoutaient à ça, qui peuvent être 10% à New York, 15% en Californie. Non seulement ça n'a pas tué la liberté et le capitalisme, mais ça correspondait à la phase de prospérité la plus considérable pour ce pays. On a des systèmes similaires en Europe. La grande leçon de l'histoire sur ce sujet, c'est non pas il faut l'égalité complète, c'est-à-dire qu'il y ait certains écarts de revenus de patrimoine, ça peut être utile. Platon disait 1 à 4, bon, je sais pas, c'est 1 à 4, 1 à 5, 1 à 10, on peut en discuter. Mais ce que je sais, c'est que 1 à 100, ou 1 à 200, etc., ça ne sert à rien. C'est-à-dire, la grande leçon de l'histoire, c'est qu'en fait, ce qui fait la prospérité économique...
C'est même pas moral, c'est-à-dire que ça ne sert à rien pour l'égalité.
Oui.
C'est même pas une question de morale.
Bah, c'est-à-dire, si ça servait, mais ce serait étonnant, parce que ce serait quand même très étonnant à partir du moment où on croit un tout petit peu dans l'égalité humaine que ce soit vraiment utile d'avoir des écarts aussi considérables. Mais si vraiment ça avait été démontré par l'histoire, évidemment, j'en regarderais les choses différemment. Ce qui a fonctionné dans l'histoire, c'est l'égalité dans l'éducation. C'est en particulier l'avance des États-Unis au milieu des 20e siècle sur les pays européens. Ça tient au fait que dans les années 50 aux États-Unis, on l'a oublié, mais il y avait 80-90% d'une classe d'âge qui allait au lycée, alors qu'en Europe, à la même époque, en Allemagne, en France ou au Japon, c'était 20 ou 30%.
Il nous restait peu de temps.
C'était ça qui a conduit à la prospérité.
Alors, vous parlez des États-Unis, moi je vous ramène en France. Comment lutter contre ces inégalités? On y reste. La méthode d'Emmanuel Macron, cette semaine à Marseille, ça a été de donner beaucoup d'argent, plus d'un milliard, sur l'école, sur la sécurité, sur les transports, donc sur les services publics. Est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire?
Alors, mieux vaut tard que jamais. Après, c'est vrai que faire ça à 8 mois des élections, bon, ça aurait peut-être été mieux de s'y intéresser en début de quinquennat. En tout cas, il y aurait eu moins de critiques disant il y a peut-être un rapport avec les élections. Mais
on enlève
bon, c'est
ça.
Toujours mieux.
C'est bien ou pas?
Alors, le problème,
c'est du saupoudrage.
Alors, c'est bien. Alors, je vais vous répondre. C'est bien d'avoir une rallonge comme ça pour une ville comme Marseille qui a des recettes fiscales par habitant beaucoup plus faibles, par exemple, à la ville de Paris, pour prendre un exemple. Sauf que on change pas cette inégalité structurelle. C'est-à-dire, il faut savoir que actuellement, entre les différentes communes de France, la base fiscale, que ce soit la base foncière par habitant, le revenu par habitant, la richesse par habitant, varie d'un facteur de 1 à 3 à 1 à 4. Et c'est sur cette base que les communes financent l'entretien des écoles, les activités périscolaires. Et donc chaque enfant, on pourrait croire que chaque enfant a droit à la même école, mais en fait, les ressources pour financer tout ça vont de 1 à 3 à 1 à 4. Et ma question que je pose, c'est quand est-ce qu'on change ce système? Parce qu'ensuite, on peut mettre des rallonges pour les communes qui, pendant des années, ont eu 3 fois moins de ressources que d'autres. Mais à un moment, on peut peut-être se poser la question, est-ce que c'est normal qu'on ait comme ça une telle inégalité de ressources? Donc voilà, moi, je voudrais une réflexion.
La question, c'est, votre idée, c'est l'État qui doit donner de l'argent, en fait. C'est en permanence ça ou pas? Ou il y a un autre moyen de faire?
Je pense
parce que
la dette
s'envole quand on fait ça.
Oh, mais non, mais vous inquiétez pas pour la dette. Vous savez, l'histoire de la dette, j'en parle beaucoup dans le livre. Il y a eu des épisodes de dette après la Seconde Guerre mondiale qui étaient beaucoup plus considérables que ça. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est toujours sorti. Là encore, il faut faire preuve d'imagination. C'est-à-dire que vous avez un pays comme l'Allemagne qui, après la Seconde Guerre mondiale, a mis en place un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts patrimoines privés. Ils se sont débarrassés de la dette en quelques années et ça leur a permis de financer l'investissement dans les écoles, dans les infrastructures et la croissance de l'après-guerre. Donc c'est beaucoup nourri de ça. Mais il y a une amnésie historique sur toutes ces questions. Et moi, c'est peut-être le plus important sur lequel je veux insister, c'est que moi, j'essaye dans ce travail
de
mettre sur la table un certain nombre d'expériences historiques qu'on oublie complètement et qui peuvent permettre d'éclairer, d'ouvrir des alternatives pour les choix à venir.
Eh bien, on lira ça dans votre dernier livre, cette brève histoire de l'égalité parue aux éditions du Seuil. Et puis, je renvoie aussi à votre débat écho avec Dominique Seux chaque vendredi 7h45 sur France Inter. Merci Thomas Piketty.
Merci beaucoup.
Et bonne journée.